Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène pour une aventure assez incroyable, à pied, sur plusieurs milliers de kilomètres. Et surtout pour une très très belle cause qui est pour lutter contre la fibromyalgie. J'ai du mal à le prononcer encore. Et je suis avec Violette Duval qui a fait cette aventure extraordinaire qu'elle va nous raconter. Violette, comment ça va?
Ça va et toi?
Bah écoute, ça va très très bien. Alors, avant qu'on commence et qu'on rentre dans ce podcast un peu plus dans le vif du sujet, qu'est-ce que la fibromyalgie?
Alors la fibromyalgie, en fait, pour que ça soit assez compréhensible, c'est une maladie où on a mal partout en permanence. Des douleurs musculaires et articulaires dans tout le corps, pour résumer. Donc c'est pas une maladie très sympa, on va dire.
Ah, ça c'est cool ça, dis donc, c'est insidieux, ça t'empêche de rien faire si ce n'est que t'as mal tout le temps en fait.
Oui, en fait, c'est très dur à gérer les douleurs. En fait, la douleur, tu peux pas la gérer et tu fais ce que tu peux pour gérer la douleur. Il faut savoir que il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle vraiment qui fonctionne pour. Donc c'est très compliqué de vivre avec en fait.
Et c'est des douleurs qui s'apparentent à quoi? Tu sais, je sais pas, quand t'as un point de côté, ou alors tu tords la cheville, ou tu sais, des douleurs intenses, ou c'est plutôt des douleurs latentes?
Non, c'est plus des contractures, des brûlures, des piqûres sur les muscles, et après sur les... Ouais, c'est douloureux. C'est sympa, c'est ce que je t'ai dit. Et après, c'est plus dans les os, c'est un peu on a des douleurs aiguës, en fait. C'est basé sur... Il y a 18 points douloureux et en fait, sur les os, c'est plus des douleurs articulaires et donc c'est plus des douleurs type arthrose. Donc c'est douloureux aussi. Ouais. Et après, on fait ce qu'on peut pour limiter la douleur. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement, donc c'est compliqué, quoi.
C'est une maladie qu'on se rend compte qui touche à peu près combien de personnes, je ne sais pas, en France ou dans le monde, s'il y a des stats.
Alors, dans le monde? Pardon. Dans le monde, c'est 3% de la population mondiale.
3%? Mais non.
Ouais, c'est pas une maladie rare, en fait. Et en France, c'est 2 millions de personnes connues, sachant que c'est très compliqué. Moi, pour être diagnostiquée, ça a mis 10 ans. Donc, parce que j'avais quelques symptômes au début. Je faisais du sport de haut niveau, j'étais basketteuse et en fait, ça a commencé par les pieds en fait, mes douleurs. Et il faut avoir un certain nombre de douleurs pour être diagnostiquée et ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Il s'est avéré plus tard puisque j'ai eu vraiment une énorme crise et là, tout s'est déclenché et ils m'ont diagnostiquée. Mais ça prend énormément de temps et on nous dit souvent que c'est dans notre tête aussi. Donc ça, c'est compliqué parce que...
Ah, genre on te dit, t'as mal, mais bon, ma grande, arrête d'être stressée, c'est un peu dans ta tête la douleur. Hein.
Ouais, on nous dit que c'est psy, oui, clairement. Okay. Clairement, c'est un peu mon combat de sensibiliser en fait les gens et de leur dire, et puis aussi le corps médical qui des fois, il y a des très bons médecins, mais c'est comme tout, il y a des médecins qui connaissent peu la maladie ou c'est compliqué quoi.
Parce que évidemment, ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que tu as fait ce voyage et cette aventure pour sensibiliser à la fibromyalgie, mais parce que tu es toi-même atteinte malheureusement de cette maladie. C'est une maladie qui est ce qu'on appelle auto-immune, c'est-à-dire ça ne s'attrape pas, c'est juste tu l'as dans le corps et ça se déclenche un peu comme je sais pas, Parkinson, la sclérose en plaques ou des choses comme ça.
On ne sait pas en fait. Là, en France, on pense plus que c'est le système nerveux central, les neurones qui fonctionnent mal de la douleur, mais il y a d'autres théories, ça pourrait être immunitaire, ça pourrait être les fascias, ça pourrait être... En fait, il n'y a pas vraiment de recherche, donc c'est aussi le problème, c'est que ça touche énormément de gens, mais il n'y a pas de recherche, donc on ne peut pas savoir, et puis ce n'est pas nous c'est enfin là où nous on essaie de trouver des solutions pour aller mieux forcément, puisque une fois que tu as ça, tu es obligé de vivre avec. Enfin voilà.
Ah, c'est cadeau, quoi.
Donc bah tu essaies de vivre et de faire avec, mais ouais, il y a pas de
solution miracle.
Solution miracle quoi.
Alors maintenant, il va falloir que tu nous expliques un truc. Comment une personne qui a des douleurs chroniques, qui de toute façon, c'est pas genre j'ai fait un petit footing et j'ai des courbatures, c'est un truc qui peut arriver n'importe quand, qui est osseux, nerveux, musculaire et tout ce que tu veux, a décidé d'aller marcher et faire un trip de plusieurs milliers de kilomètres. C'est-à-dire que même une personne en bonne santé, en général, ça pique, tu vois, ça fait mal un peu. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça, et est-ce que tu peux nous dire le parcours de cette aventure?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, j'ai été diagnostiquée et j'ai mis 2 ans à m'en remettre. Et moi, dans ma
psychologiquement
tête, ouais, bah non, pas psychologiquement, physiquement. Hein, j'étais, il y a des périodes de ma vie où j'étais alitée. Hein, c'est pas, voilà, ouais. Donc pour moi, le confinement en ce moment, ça va. Hein, je peux marcher 1 heure, je suis contente, tu vois.
Ouais.
Mais je reviens de loin. Mais en fait, oui, donc en 2010, j'ai été diagnostiquée. Et ce qui m'a sauvée un peu, c'est de penser à faire un tour du monde, tu vois. Dans ma tête, je voulais faire ça depuis très longtemps. Et comme j'ai perdu mon emploi, parce qu'en fait, suite à cette maladie, j'ai perdu mon emploi, puisque mon combat aussi dans ce voyage, c'est d'être reconnue par la Sécurité sociale. Parce que moi, si j'ai perdu mon emploi, c'est un peu à cause de la Sécurité sociale qui n'a pas voulu de mes arrêts de travail. Parce qu'ils considèrent que la maladie, en fait, la théorie en France, c'est de rester actif, mais seulement on te donne des traitements, tu es suivi en centre antidouleur, c'est très compliqué de pouvoir travailler. Et moi, je bossais en audit, c'était des rythmes de... Enfin,
oui.
C'était... voilà.
Ouais, c'est du 8h-22h.
voilà, c'était impossible. Donc, j'ai pas compris la décision de la Sécurité sociale qui voulait pas que j'ai un arrêt de travail, et elle a remis en cause l'arrêt de travail, et suite à ça, bah, j'ai forcément été licenciée. J'ai pas eu le temps de... Enfin, mon corps, il en pouvait plus, donc voilà. Donc, tout ça, bon, bah, moi, j'ai eu énormément du mal à... Ça a été dur mentalement, physiquement, puisque j'étais pas bien. Et ce qui m'a sauvée, c'est de penser toujours au voyage, parce qu'en fait, c'est ce que... C'était un peu mon rêve, et là, je me suis dit, bah, quitte à vivre comme ça, bah, je veux vivre mon rêve, en fait. Et,
alors, attends, ma petite question. Comment, dans ces cas-là, on s'appelle Violette, on vient de perdre son taf, on vient de te raconter que t'as une maladie de merde, qui, en plus... Bah en fait on te la reconnaît pas vraiment, genre t'es malade mais c'est un peu pourri, nous on veut pas couvrir, et que tu te projettes dans un tour du monde, c'est-à-dire que il faut avoir certains fonds, c'est que t'avais réussi à mettre de l'argent de côté pendant que tu travaillais pour pouvoir justement, bah tu avais mis de l'argent de côté mais tu savais pas trop pourquoi le faire, et là tu t'es dit mais en fait je fais un pari sur moi plutôt que sombrer dans la peur qui est de se dire bah putain j'ai pas de job, va falloir que j'économise mon argent parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais en avoir. Tu t'es dit tu sais quoi, il y a là, on fait un all-in, c'était ça un peu ?
Oui, c'est ça en fait. Moi, et puis c'est vraiment ça, mon kiné il m'a dit c'est possible, et là j'ai pas cherché. Il y avait pas grand monde qui croyait que j'allais pouvoir partir, sincèrement. Mais il y avait une personne qui y croyait, et voilà.
Qui était
puis
qui,
moi,
c'était qui ?
Le kiné.
Ta famille,
suivait.
Pas du tout.
Sincèrement, mes parents, me voyant dans l'état de santé dans lequel j'étais, ils n'avaient pas trop envie de me voir partir. Par contre, la condition pour moi, c'était de ne pas partir seule au début. Donc, j'avais rencontré des personnes. Mais en fait, je me suis focalisée sur ça. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée, de penser à ça. Puis, bon, j'ai un passé de sportif de haut niveau. Donc, ouais. Je sais que ça allait être progressif, que je n'allais pas retrouver une santé extraordinaire. Mais j'ai arrêté de regarder ce qu'il y avait sur Internet, parce que sinon, t'as envie de mettre fin à tes jours. C'est dramatique,
alors,
ce qu'il y a.
Bien sûr, l'automédication, on fait attention, les enfants. Hein, parce que là, avec, je viens de tousser, j'ai le Covid et je vais mourir de l'Ebola derrière. Enfin, tu vois,
c'est un peu le problème de tous les réseaux, de tout ça. Donc, je me suis focalisée sur des choses positives. De toute façon, je suis positive à la base et sur ça. Et en 2012, je suis partie avec 2 personnes. Et donc, c'est là que je me suis aperçue, en fait, que le voyage m'apportait beaucoup. Je me suis mis à faire de la photo et à marcher, en fait, tous les jours. La marche est devenue un peu ma thérapie, la photo, et puis le voyage, les rencontres, moi ça m'a beaucoup
T'es
aidée.
parti
Et
où? T'es parti où pendant cette aventure?
j'ai traversé, alors je suis partie, en fait je pensais partir un an, je suis partie 3 ans et demi sans revenir.
C'est ça qu'on aime.
Oui, voilà. Il y avait pas. En fait, mon plan, c'était de faire un tour du monde, voilà. Mais on n'avait pris qu'un billet pour la Russie. Et bon, j'ai traversé l'Asie comme ça. Et puis, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais plus de sous, donc je suis allée en Australie. J'ai fait un PVT. J'ai remis de côté. Et là,
Attends,
j'ai.
attends, ça veut dire que l'Australie, PVT, excuse-moi, je connais les jobs de PVT. Ça pique un peu, c'est être soit tu vas faire du fruit picking, t'es plié en quatre, donc même une personne normale, elle a mal, soit il y a peut-être d'autres jobs, t'as réussi à décoder quoi comme job pour
Alors
pouvoir.
moi, je faisais du ménage et très sincèrement, c'était cool parce que c'est pas, les Australiens, ils ont un rythme de vie qui est différent. C'est des Iliens, donc c'est cool quoi. Et j'étais dans le désert, donc en fait, la chaleur, je me suis vraiment aperçue que la chaleur m'aidait beaucoup. Et donc chaleur et sans humidité, c'était parfait.
Ah
Donc
yes.
et sinon, je mettais en rayon dans des magasins et c'est pareil. C'était pas des charges très lourdes. C'est réglementé en fait.
C'est génial.
Donc, j'ai fait ça. En plus, je suis allée en plein milieu du désert, à côté d'une mine.
Donc c'est ça où
C'était
ça payait mieux.
spécial.
C'est là où ça payait le
Oui,
mieux.
bah c'est ça.
Et
Par contre, j'en
t'as fait
avais marre parce qu'il n'y avait pas la mer. Et ça, moi, c'est quelque chose d'important pour moi, pour mon équilibre. Et puis, bon,
T'as fait ça combien de temps?
j'ai fait ça 7 mois. C'était dur. À la fin, j'en
C'est
pouvais
long,
plus.
7 mois dans une mine.
Ouais, c'est dur. Et après, j'ai visité l'Australie et puis, j'avais de l'argent, donc je me suis dit, mon rêve ultime, c'est d'aller en Polynésie. Donc, en fait,
Vas-y, viens là.
j'ai fait plusieurs étapes avant d'arriver en Polynésie. J'ai fait pas mal d'îles du Pacifique et puis, je suis arrivée à Tahiti
Mais
et voilà quoi.
quand tu sais quand là on est ambiance Yalla etc. qu'est-ce qui faisait que t'avais pas cette pensée en toi parce que souvent c'est ce que les gens en fait ont et c'est ce qui les bloque c'est ce que dire et après qu'est-ce que je vais faire après oui mais je fais ça mais après tu vois ils sont toujours dans le et après dans ils se projettent dans la difficulté qui va potentiellement venir qu'est-ce qui fait que toi t'as réussi à le surmonter ce côté ouais mais bon j'ai une maladie je claque toute ma thune et après qu'est-ce que je vais faire c'est quoi qui t'a permis de profiter et de vivre ta putain de vie.
Bah, en fait, le après, moi, je me le pose pas. Je sais pas, je suis peut-être pas dans la norme, mais pourquoi se poser la question d'après? Faut vivre tout de suite, quoi. Enfin, moi, c'est justement la maladie qui m'a fait dans mon cerveau. Moi, j'avais une vie toute tracée. J'allais être auditrice, peut-être directeur financier après. Enfin, voilà, une maison, un chien et tout ça. Et là, en fait, ça a tout changé dans ma tête. Et je m'autorisais même des choses que je me serais pas autorisée si j'avais pas eu la maladie.
Comme
Donc,
quoi?
en fait, je voyais pas le après parce que je me dis, on sait pas, ça se trouve, je retombe alitée demain. Donc, autant vivre un truc intéressant. Et en plus, j'ai pas vu le temps passer, en fait. Donc, c'est quand il y a plus d'argent que là, tu te dis, ah oui, bon. Mais en même temps, tu sais que la prise de risque, souvent, c'est les gens ont peur de la prise de risque. Mais en fait, moi, je le vois plus comme une opportunité. Mais voilà, faut le voir différemment. Mais c'est ma façon de voir les choses. Mais parce que la différence, au final, elle est importante. Tout le monde est pareil. Donc si tu es un peu différent, c'est ça qui fait la différence.
Et qu'est-ce que justement, avant d'avoir cette maladie, d'être diagnostiqué, tu te décrivais comme quel type de personnalité, c'était quoi ta façon de penser, et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui cette façon de penser, cette personnalité, qu'est-ce qui a évolué?
Alors, c'est quand même assez opposé. Disons,
Ah
je
ouais,
ne
vraiment?
me. Oui, en fait, j'étais comme mes amis, c'est-à-dire, j'ai une maison, enfin, je voulais avoir une maison, je voulais avoir une vie normale, en
La
fait.
sécurité, ok.
La sécurité, et puis bien vivre ma vie. Mais je ne savais pas ce que c'était le voyage en même temps. Donc, voilà. Et en fait, auparavant, j'avais fait. J'étais allée la première année, j'avais assez d'argent pour partir en Australie et on avait été en Australie avec deux amis, deux très bons amis et on avait vu tous ces backpackers qui faisaient des voyages et qui nous disaient mais faut le faire, c'est hyper intéressant, ça développe plein de choses en fait. À l'école, on nous formate, hein, on nous dit
Bien sûr.
voilà, on fait des maths, voilà, mais l'école de la vie, ce que tu apprends, en fait, moi j'adore apprendre et en fait j'apprends par les gens, par l'image. et j'ai jamais eu une mémoire. En fait, apprendre un truc par cœur, c'est pas pour moi. Moi, j'étais pas trop dans le système scolaire
C'est dans la
et pas trop
compréhension.
d'ailleurs dans le système audit, quoi. Je me suis très vite aperçue
C'est
que
vrai que si
c'était
t'aimes
pas
pas les
trop.
chiffres, c'est t'as peut-être pas bien choisi ta voie.
C'était pas ça. C'est-à-dire qu'il y a. En fait, il faut être le meilleur. Et en fait, quitte à écraser les autres, et ça me gênait énormément. Et il y avait énormément de compétition, mais je le voyais pas. Enfin, moi, j'ai eu fait du haut niveau, mais on était en équipe, donc j'écrasais pas l'autre. Au contraire, je
Bien
savais
sûr.
que c'était important. Et j'avais pas cette mentalité d'être la meilleure, de rester pour rester, de faire acte de présence. En fait, c'était particulier, ce milieu. Je me suis pas du tout reconnue très vite quand j'ai vu aussi mon premier, comment on appelle ça, entretien,
D'embauche?
entretien.
Ouais.
Et non, pas l'entretien d'embauche, l'entretien que tu fais un an après, 2 ans
Ah
après.
ouais.
Et en fait, je me suis
Entretien
vraiment
individuel
aperçue.
annuel, c'est ça.
Voilà, c'est ça le mot exact. Et en fait, je me suis aperçue que j'étais très loin de leur mentalité. Ma chef me demandait, mais c'est, enfin, elle voyait que j'étais pas dedans, quoi, parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, j'étais pas à l'aise, c'était pas moi, en fait. Et quand je lui expliquais, il y a le travail et il y a la vie à côté, elle me regardait avec des grands yeux, elle me dit, je comprends pas ce que tu me dis. Et là, j'ai vraiment
Ouais.
compris que moi, c'était pas ça. Mon but, c'était pas d'être riche. Mon but, c'était pas de travailler pour travailler et puis rien faire à côté. Donc, il y a tout ça, voilà.
Et
Je pense que.
qu'est-ce que tu sais quand tu dis que le voyage t'a appris certaines choses que tu vois justement que toi t'adores apprendre, tes premiers voyages ils t'ont appris quoi?
Bah moi, ils m'ont appris à voir totalement différemment. Enfin, déjà, j'ai une éducation un peu différente. On vit à la campagne, tout ça, mais
Qui est
c'est
plutôt un bon
juste.
investissement actuellement pendant le confinement.
Oui, mais ouais, carrément. Mais pour moi, ça coule de source, ou même on a toujours été plus ou moins écolo. Enfin, voilà, chez moi, c'est comme ça, sans être dans l'extrême,
Bien
mais
sûr.
voilà. Et non, je pense que. Toutes ces rencontres, on se plaint beaucoup, en fait, mais les gens, ils ont rien. Mais en fait, par exemple, en Asie, j'ai trouvé qu'ils étaient toujours souriants. Moi, je pense que j'aurais appris à sourire, parce que déjà, j'étais mieux dans mon corps, mais j'aurais appris à sourire en Asie, parce que les gens, ils sourient tout le temps, avec rien, et puis ils donnent tout, et puis voilà, enfin, c'est ça. Et puis, c'est
T'as rien
des
appris à sourire.
échanges.
Ouais. Non, mais
Ouais,
c'est
ouais.
un truc, c'est tout con. Tu sais, on dit souvent, on est la somme des personnes que l'on fréquente. Cette fameuse phrase qui dit aussi, c'est important de bien s'entourer. Et quand tu es en voyage, évidemment, tu ne t'entoures plus de personnes récurrentes. Tu t'entoures, on va dire, d'une culture, d'un pays, de gens, voilà. Et quand tu es dans un pays où, on va prendre la France, où on va dire qu'il y a une certaine tendance à râler, à avoir un peu le négatif, à médire un peu la trop grosse réussite, etc. Ou même les petits plaisirs et choses comme ça. Quand tu te retrouves dans un pays qui remet au centre justement ce côté petit plaisir de la vie, on rigole, de toute façon on est un peu dans la merde, mais de toute façon c'est pas grave, enfin, il y a un moment on l'est tous, donc allez c'est pas grave, on se serre les coudes. Et ben en fait, toi-même, c'est la contagion en fait. Tu vas te remettre à sourire, tu vas te remettre à être léger, alors que dans l'idée, tu es dans une bien mauvaise, plus mauvaise situation que quand tu es en France avec ton quotidien, tes sécurités, tout ce qui va bien. Mais tu apprends en fait à te réimprégner d'autres choses. Et je pense que ça, tu as raison, c'est une des choses les plus importantes, c'est que tu te réimprègnes d'autres choses, alors qui sont pas toujours mieux, hein, qui sont pas toujours moins bien, qui sont différentes. Et ça fait, je pense, vraiment du bien. J'aimerais maintenant qu'on arrive sur ce dernier voyage que tu as entrepris après tout ça.
Oui, parce que oui, j'en ai fait d'autres voyages, puisque après je suis repartie en Amérique du Sud et je suis rentrée. Mais justement, c'est en Amérique du Sud que j'ai eu cette idée parce que j'étais loin et j'ai pris énormément de transports en commun, j'en pouvais plus, sincèrement, des bus, voilà, parce que c'était moins cher, mode backpacker, quoi.
Bien
Et
sûr.
j'ai rencontré coup sur coup un Américain qui venait de faire toute l'Amérique du Sud à pied, avec son chien et une poussette. Et là, l'idée de la poussette, je peux te dire que c'était là, dans ma tête.
Quoi, tu portes pas ton sac? Mais c'est magique.
Mais en fait, moi, je peux pas porter de sac sur du long terme. Je rêvais de faire un truc tout à pied parce que ça me trottait un petit peu dans la tête, mais je savais pas ce que je voulais faire. Et après cette rencontre de cet Américain, mais juste après, hein, c'était en Uruguay, c'était quasiment au même endroit. Je rencontre un couple et je leur raconte un peu mes histoires, ce qui s'est passé, pourquoi je voyage. Et ils me disent, mais Violette, il faut que t'en parles de ça, faut que tu mettes à profit. Et là, le projet, en fait, en Uruguay, il était dans ma tête, quoi. Et il a mûri un peu.
Il commençait à prendre plus d'ampleur que ta propre aventure à toi, en fait. Tu veux être la représentante de cette maladie, donc la fibromyalgie, et essayer d'en faire parler à travers ça, et surtout de se dire que ok, t'as des douleurs, mais on peut aussi aller au-delà, et surtout montrer que ben malgré ça, vu que de toute façon, en plus, c'est pas reconnu, il y a un moment, faut aller de l'avant. Ça a été quoi vraiment les grands messages que tu voulais faire passer, toi?
Alors, faut savoir que j'avais pas la prétention d'être quelqu'un au devant de la scène et tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vachement suivie dans cette aventure et je pensais pas du tout. Au début, je me disais même, je vais jusqu'en Turquie à pied avec ma poussette et je le fais pour moi. Enfin, j'hésitais un peu, mais en fait, je me suis vraiment rendu compte en rentrant que c'était toujours la même chose, qu'on n'était toujours pas reconnu. Et 10 ans après, enfin, moi, c'est le même problème. On est reconnu sur le papier, mais officiellement, en fait. C'est souvent remis en cause et c'est une maladie à part entière. Donc en fait ça m'a voilà c'était ça m'a énervé, mais j'ai transformé ça en quelque chose de positif et je me suis dit bon oui là il y a vraiment quelque chose à faire, il faut vraiment qu'on en parle et que je me donne les moyens d'en parler et que j'essaie de me donner à fond pour ça
C'est
et le
génial.
fait et le fait de faire 6 000 km, j'aurais pu faire j'aurais pu
Le
faire
tour
du
du pâté de maison, c'est sûr, ça aurait peut-être eu moins
Oui, voilà,
d'impact.
mais pas du tout. Donc, et puis bon, je me fais plaisir aussi. Je voulais absolument aller au Portugal, donc parce que c'était quelque chose que j'avais envie de voir depuis des lustres. Et on va souvent chez nous, enfin, on va souvent aller à l'étranger, mais en fait, il y a des trucs magnifiques. Même
Big
la
up au
Bretagne, hein,
Portugal,
c'est magnifique.
j'adore le
Et du
Portugal.
coup, je me suis dit bon, je joins l'utile et puis l'agréable, et je vais faire 6 000 km à pied.
Et
Voilà.
6 000 km à pied, c'était quel itinéraire?
Alors en fait, je suis partie du Mont-Saint-Michel le 13 avril,
Ok,
donc
symbolique,
l'année.
c'est ça qu'on aime.
Oui, je suis normande à la base,
Ah,
tu
en
vois.
plus, ok, d'accord.
Donc c'est symbolique. J'étais censée arriver à Marseille le 2 avril à peu près, enfin, ou je sais pas, j'avais dit 4 avril, je crois. Mais bon, voilà, je
En
suis un
passant
peu
par,
confinée.
en faisant pas que la France, on est d'accord.
Alors, en passant, oui, pardon, en passant, en faisant tout le littoral, mais que donc la Bretagne, les Landes, l'Espagne,
Ah,
je
en
suis allée à
longeant tout le
Santiago.
littoral et pour revenir jusqu'à... Ah oui, d'accord, toute la côte en
Ah
fait
oui.
atlantique
Bah,
méditerranéenne.
ça fait pas 6 000 sinon.
Ah, mais je sais pas, t'aurais pu te barrer ailleurs, hein, t'aurais pu aller, je sais pas, de l'autre côté.
Oui, non, mais oui, mais en fait c'était Bretagne-Land, après l'Espagne, j'ai coupé un peu quand même à travers pour aller à Santiago de Compostelle, et puis après j'ai continué tout le littoral portugais, Barcelone, enfin tout le littoral espagnol, le sud, et puis j'ai coupé un peu à partir de Barcelone pour rentrer enfin pour aller vers Figueres et remonter vers le col de Banyuls et arriver de nouveau en France.
Alors, petit spoiler, parce qu'effectivement, à cause du confinement, à 2 semaines de l'arrivée, au bout de combien de temps d'aventure?
Ça faisait quasiment 11 mois.
Ça fout un peu le seum, comme on dit. Mais
Ouais, un
je
peu.
pense que tu vas le refaire. Symboliquement, je suis sûr que tu vas y retourner. Tu vas te les refaire ces 2 semaines, on n'en parle plus, ça sera plié après le
Ah oui.
confinement. Mais tu sais, c'est un truc tout con. J'aime bien rendre les choses possibles, palpables et réalisables pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être. Peut-être pas, ils ont peut-être la chance de ne pas avoir la fibromyalgie, mais ils ont peut-être des problèmes de dos, ils ont peut-être, je sais pas, un physique un peu fragile, ils n'ont pas envie de porter des choses. Et une aventure comme la tienne les tente avec une poussette. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta poussette? Et comment ça se passait ton aventure? Est-ce que tu campais du coup beaucoup dehors? Ça a été quoi en fait ton setup de cette aventure?
Alors, dans ma poussette, il y a ce qu'on met dans un sac à dos, une tente, des vêtements. La poussette en elle-même était déjà lourde, hein, elle faisait 15 kilos. J'avais un peu 15 kilos de matos. Donc, c'était quand même assez lourd. Et ça, je ne l'avais pas trop anticipé, très sincèrement, que ça allait
Ah.
être aussi lourd et aussi compliqué dans les côtes.
Ah
Je n'avais pas
merde.
imaginé que c'était autant de côtes. Tu vois, là, rien que la Bretagne, déjà, j'ai souffert. Mais ça m'a entraîné. De toute façon, une fois que tu es lancé et que c'est un projet pour toi, mais pour les autres aussi,
Ouais.
bah, ça t'oblige à. Voilà, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, ça m'a obligé. Et puis, j'ai fait énormément de rencontres qui font que voilà, le voyage est super. Mais donc, il y a tout ce qu'il y a dans un sac à dos typique de voyageur, quoi. Et puis, un réchaud, tout ça. Au début, je faisais du camping.
Ouais.
Et puis.
Sauvage ou légalement?
Les deux, mais beaucoup, enfin, en France, quand même, c'est vachement. En Bretagne, je pensais qu'il y allait y avoir des spots et tout assez tranquille, mais en fait, c'est hyper urbanisé au final, parce que je ne peux pas prendre les chemins de randonnée, en fait. Je prends
À cause de
des cyclables,
à
des
cause de la
routes.
poussette?
Ouais, la poussette,
Ah.
elle est quand même volumineuse, donc c'est pas. Et quelque part, moi, de toute façon, sur la poussette, il y a une étiquette expliquant que je fais 6 000 km à pied pour la fibromyalgie avec un drapeau, et c'est ma visibilité. Ça représente le poids de ma maladie, la visibilité, et donc plein de gens s'arrêtaient parce qu'ils voyaient la poussette et ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une poussette, cette
Il n'y a pas d'enfant, madame, là.
nana-là?
Faut peut-être vous qu'on vous le dise et tout.
Mais ça, on me l'a énormément demandé, hein, si j'avais un enfant dedans. Mais c'est quand même enfin, mettre un enfant dedans alors qu'il y a une bâche dessus, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'était la première approche. Du coup, beaucoup de gens venaient vers moi et puis je m'arrêtais aussi pour leur demander de l'eau. Enfin, voilà. Donc beaucoup de camping et après. Très sincèrement, bah, ça a été l'hiver. Pour moi, l'humidité est très très compliquée. J'ai eu énormément de pluie. Voilà, de vent, de pluie.
Oh non.
Ouais, j'ai eu la tempête Gloria aussi où j'ai pas pu repartir parce qu'il
Oh
pleuvait trop.
putain.
Donc, ouais, ben.
À quoi on pense quand, en plus de se prendre un vent de 100 km/h dans la gueule et des trompes d'eau, on a mal en fait. Qu'est-ce qui fait? En fait, tu sais, j'aimerais bien aussi que tu nous fasses peut-être un pont avec ton état d'esprit de sportif de haut niveau. C'est quoi les clés en fait pour surmonter ce genre d'étape? Parce qu'on sait très bien que c'est dans la tête et t'es la preuve
Ouais.
vivante puisque t'as mal partout, les conditions sont horribles et pourtant t'as continué à avancer, enfin, à part quand il y avait une grosse grosse tempête. Mais c'est quoi qui te permet de continuer à avancer dans ces cas-là? Selon toi, c'est quoi les clés?
Ben, en fait, c'est de penser que de toute façon, c'est si je m'arrête quand il pleut et tout, ça va être pire de rester statique parce que là, l'humidité, elle va rentrer en toi et c'est pire. Donc déjà, il y a ça. Et après, de toute façon, tu vas certainement, même dans la pire journée de merde, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas rencontrer, je sais pas, même un oiseau et tu vas dire, ah, c'est chouette, quoi. Donc en fait, même si ta journée, elle est vraiment merdique, il y a un truc qui va dire, bon, ben, je continue voilà, enfin, et puis tu as des abris, tu t'abrites sous des ponts, enfin voilà.
Ça, c'est
En fait,
l'aspect pratique. Moi, j'aimerais que tu nous
ouais,
parles de l'aspect mental, en fait.
mental.
Qu'est-ce qui fait que dans le mental, en fait, tu décroches pas, tu t'assoufflins, tu t'en peux plus, tu lâches pas l'affaire et que tu continues.
Ben, moi, c'est parce que je suis poussée par tous les gens qui me suivent,
Tu
déjà, et
penses à ça, en
puis
fait,
c'est
tu
dans
penses
ma.
aux autres.
Je pense, enfin, tu vois, la question, quand tu me la poses, je me la pose même pas. En fait, dans ma tête, j'ai un objectif, je dois le finir, point barre. C'est pas, mais
Ça, c'est peut-être
voilà,
parce que toi, tu as été une athlète de haut niveau. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on puisse
ouais,
transmettre
je
à des gens
pense.
qui n'ont peut-être pas eu ton parcours et qui n'ont peut-être pas cette mentalité, parce qu'encore une fois, il y a des mentalités qui sont assez innées. Qu'est-ce que tu peux leur transmettre à ces gens-là, justement, qui ont peut-être plus de doutes, qui se posent beaucoup plus de questions? Apparemment, tu disais, c'est se concentrer sur les petits détails qui font plaisir, en fait, les petits détails.
Ouais, les petits détails, et puis se dire, ah bah tiens, je vais m'arrêter au prochain village, je vais prendre un café, je vais
Ah.
m'arrêter, je vais rencontrer des gens, voilà,
Penser à se
enfin,
faire plaisir aussi en fait. Pas être que
ouais,
dans
c'est se
l'effort,
dit.
pas être que dans l'exploit, mais c'est penser à... Faut pas s'oublier en chemin, c'est ça?
Oui, et puis de toute façon, moi, toutes les heures, je faisais des pauses parce que, voilà, ça te permet de souffler, même si c'est 5 minutes, t'as vu que t'as fait des petits objectifs, voilà, se mettre des petits objectifs, je pense, voilà, à son niveau. Après, se dire, dans 1 heure, ben, je prends une pause, dans 1 heure, s'il y a un village, ben, je m'arrête, je prends un café, et puis s'il repleut, bon, ben, j'attends un petit peu plus parce que les gens, ils sont cool, donc d'en profiter. Voilà, après, j'ai pas de pression, voilà,
Bien sûr.
Mais c'est ouais, ce film. En fait, tout le monde peut. Enfin, si j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Après, c'est, je pense, ancré dans nous, mais faut juste trouver la bonne case du cerveau qui fait que tu avances et sans te poser de questions. Voilà. Mais franchement, c'est pas si. Enfin, oui, c'est pas si compliqué. Enfin,
je pense,
c'est difficile.
Ouais, en fait, je pense que tu vois, je pense qu'il y a un dénominateur commun au-delà du fait que tu as peut-être un mindset qui était déjà bien formaté à la performance parce que tu as été une athlète de haut niveau. Je pense qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est avoir une cause qui est plus grande que soi, en fait. C'est ça qui nous fait nous dépasser. Quand c'est pas centré sur notre petite réussite ou notre petit ego personnel, mais de se dire, je peux pas décevoir telle personne, je peux pas décevoir telle cause, enfin, tu vois, c'est montrer que ce que tu fais aussi, c'est pas que pour toi. Ça, en général, ce qui revient beaucoup, c'est ça. Et avoir aussi le deuxième critère, c'est avoir la foi dans ce que tu fais. C'est-à-dire, en général, ça avait l'air d'être aussi ton cas, c'est putain, j'ai cette maladie, je dois en faire parler, je dois en parler, je dois faire connaître cette maladie auprès des gens. Et je pense que c'est ces deux critères qui reviennent énormément et qui font qu'en général, les gens sont inarrêtables. C'est ça, c'est vraiment ces deux aspects. J'ai l'impression que tu les réunis. Encore une fois.
Oui, je pense. Je pense que tu as raison, ouais.
Il y a... Ouais, merci. Ça, c'est sympa de flatter l'intervieweur. Ça lui fait toujours plaisir.
Non, mais c'est... Et... Mais moi, en fait, quand les gens, ils voient que je suis en galère, que je fais des vidéos et tout, il y en a toujours un ou deux qui me suivent tout le temps et qui m'encouragent. Bah, je me dis, je ne peux pas m'arrêter, quoi. Et puis, je ne me pose même pas la question. Pour moi, c'est je dois finir. J'avoue, je ne l'aurais pas fait pour la fibromyalgie. Je pense que j'aurais déjà arrêté parce que physiquement, j'ai pris cher. C'est dur. Se pousser une poussette dans les côtes. Après, il y a eu les tunnels. Enfin, il y a des conditions de route. J'ai failli me faire écraser. Enfin, faut pas... Voilà, c'est quand même... Tu prends des risques parce qu'il n'y a pas des pistes cyclables partout en Europe. Moi, c'est ce que je croyais au début. Mais en fait, il n'y en a pas. Donc, je me suis retrouvée dans des endroits où il n'y a pas de place pour moi et la poussette qui est assez grosse et tu te fais klaxonner, tu te fais insulter. Après, il y a des gens hyper bienveillants et j'en ai rencontré beaucoup. Mais en fait, la route, c'est dangereux. Et ça, je ne l'avais pas non plus hyper anticipé dans ma tête. Ça allait être cool, à la cool. Voilà. Donc, sincèrement, voilà, tu ne vas pas prendre des risques pour rien. Quoi.
Justement,
donc, ça marche.
Ça a été... c'est une des questions que je voulais poser aussi, c'est... Ça a été quoi les plus grandes difficultés auxquelles tu as fait face? Donc ça, c'est la circulation. D'ailleurs, pour connaître les petites routes du Portugal, à mon avis, ils ont dû tailler un short plus d'une fois. Hein, ça va vite et ça dépasse un peu comme on aime. À part la circulation... Ouais.
Bah, ce sont les conditions. Un tunnel, quand il se rétrécit et que tu as une voiture derrière, t'es vulnérable. Un camion qui arrive en face...
T'avais pas de lumière.
Qui arrive derrière... Si, dans le tunnel. Non, mais dans le tunnel, là, je te parle de... Mais dans le tunnel, oui, j'avais une lumière. Mais même avec des lumières, en fait, à un moment donné, il y a un tunnel qui se rétrécit. Je suis passée, je pense, dans une dizaine de tunnels. Il y a de la place, hein, voilà. Et les vélos passent. Donc, je pars du principe que si les vélos passent, je peux passer. Il y avait des trottoirs pour les piétons. Mais ma poussette, elle est toujours un peu plus grosse que le trottoir piéton. Ouais. Et à un moment donné, ça se rétrécit. Et là, franchement, je réalise pas trop hein, que la voiture de derrière, elle me klaxonne. Et voilà, c'est chaud. Il y a aussi pas de place et des glissières. Et en fait, les fossés sont tellement énormes, je peux pas me garer. Donc en fait, à chaque camion qui arrive, en fait, je suis obligée de faire confiance aux voitures et j'ai pas le choix, aux camions et tout. Et moi, je suis en mode. Alors quand c'est comme ça, je suis en mode guerrière. Et là, je réfléchis plus. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive très très vite à destination et que cette période qui est compliquée, il faut que j'arrive au plus vite. Et je réfléchis plus. Là, je sais qu'il y a des situations où c'est pas toi, hein, le pilote qui est derrière toi, la voiture qui est derrière toi. Si elle se loupe, voilà.
Elle te loupe pas. Donc, ouais.
Mais bon, en général, sincèrement, les gens sont bienveillants et ils ont fait des écarts. Bon, il y en a, ils comprennent pas. Hein. C'est vrai qu'ils voient une nana avec une poussette, ils se disent, il y a un enfant dedans, qu'est-ce qu'elle fait, elle est folle.
C'est ça que j'ai même pas tilté, mais vous êtes malade.
C'est un peu ça. Mais heureusement, je comprends pas des fois, enfin, je comprends l'espagnol et pas le portugais, mais voilà. Après, les portugais sont assez calmes, voilà, c'était des petites routes, En Espagne, c'était plus chaud avec les tunnels. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai failli passer les applications aussi, Google Maps. J'utilisais Google Maps et MapsMe, qui sont des applications. Alors, il n'y a pas le mode, il n'y a pas le mode poussette, tu vois. Donc, j'utilisais le mode vélo.
Ouais.
Donc des fois, en fait, et des fois, l'autoroute était confondue avec la nationale. Et là, franchement, ça m'est arrivé en plus pas loin
J'étais au
d'être
péage et
rentrée.
là j'ai pas compris.
Bah, en fait, il n'y a pas de péage, mais j'étais face à l'autoroute, quoi. Et là, je me suis dit, putain, c'est interdit. Et là, t'as pas d'autre route. Donc, en fait, je prends la première, enfin, je prends la première sortie. Et là, je vois, il y a un panneau interdit piéton. Je me dis, putain, je suis où? Enfin, tu vois, et là, tu stresses, mais t'as pas le temps de trop stresser parce que de toute façon, t'es pas à l'endroit qu'il faut. Donc, voilà, et là, je vois, il y a une communale, ça a duré 5 minutes, mais il y a une communale, et à un moment donné, bah, tu es au milieu de la route, tu as des voitures à gauche, des voitures à droite, et tu es sur un périph. Voilà, et bon, bah, là, tu te dis, bah, la prochaine fois, j'ai fait énormément de bifurcations parce que c'était trop dangereux. Voilà,
Ça
donc
a été ça
les
en fait
dangers de
là.
la route.
Est-ce que au-delà de des problèmes des dangers de la route qui avaient l'air assez impressionnant, est-ce que t'as fait face à des grosses crises aussi, tu vois, de douleur?
Oui, ben ça m'est arrivé. Alors, j'ai eu très très mal au crâne, un soir, mais c'était la fatigue. Après, j'ai trouvé mon équilibre, donc je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui va me soulager. Mais finalement, ça a été. Il faut que. Mais par contre, c'est hyper réglé. Ma vie, elle est un peu réglée, c'est-à-dire, je me lève à 7h30, à 9h, je pars, je fais tant de kilomètres, voilà. Donc,
Attends, attends, pas voilà. C'est quoi après? C'est intéressant. Tu fais tant de kilomètres, c'est-à-dire tu fais combien de kilomètres? Parce que si
bah, en
tu dis
fait,
qu'il y a
j'essaie de.
3% de la population qui est touchée, je pense que là, il y a pas mal de gens qui vont être intéressés par ton timing.
Bah, en fait, faut savoir que moi, ça fait depuis 2010, enfin depuis 2012, que je marche tous les jours. C'est pas mon entraînement, il a été bien avant. Donc, c'est pas du jour au lendemain que j'ai marché comme ça. Enfin, j'ai préparé mon projet à marcher parce que mon but c'était de longer le littoral
De
du Mont
Mont-Saint-Michel à
Saint-Michel
Marseille.
jusqu'à Marseille. Et en fait, donc je me suis entraînée à Marseille et je marchais pendant 4 mois, je marchais 15 km par jour. Et c'est un peu mon système de compensation, en fait. Moi, je compense par la marche. Quand je travaille, on est tout le temps assis quand on travaille les trois
Bien
quarts du
sûr.
temps, mais j'essaie de faire des pauses toutes les heures, de me lever, de marcher un petit peu, parce que moi, c'est les positions statiques qui me posent le plus de problèmes. Être assis trop longtemps, ou être debout trop longtemps, en fait. Après, il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se lever. Donc voilà, on n'est pas tous à des stades différents. Moi, je pense que
D'accord.
d'avoir été diagnostiqué très tôt, d'avoir mon passif de sport de haut niveau, de rien lâcher, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai pas, moi, j'ai arrêté les traitements. J'ai compris que la médecine ne peut rien pour nous à l'heure actuelle. Et
Ouais.
quand je me suis aperçue que j'étais un cobaye, en fait, au centre antidouleur, j'ai dit non. J'ai dit, bah, dans
Alors
ma
ça,
tête,
c'est une
c'était.
bonne morphine, comme on enfile aux chevaux. Vas-y, teste-moi ça, ma petite Violette. Tu vas décoller, ça va être au top.
Ouais, bah c'est un peu ça, mais ils sont aussi impuissants que nous, les médecins, hein, faut pas leur en vouloir. Et puis faut accepter, quoi, faut accepter la maladie, faut accepter tout ça. Ça, c'est le plus dur. Je pense que ce projet, je me fais beaucoup plus accepter tout ça, parce que pour moi, c'était peut-être ça. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi j'ai fait le projet, mais je pense que à la fin, je m'accepterai beaucoup plus bah, avec la fibromyalgie, et donc voilà, enfin, c'est important.
C'était de se dire que finalement c'est en toi, que ça fait partie de toi, et que soit tu te laisses aller, et que finalement j'ai l'impression que quand on se laisse aller, ben c'est pire, et que les effets, les symptômes se décuplent, et que finalement quand on se bat et qu'on se bouge, on dit pas qu'on a moins mal, mais, enfin qu'on a pas mal, mais en tout cas ça permet de préserver une certaine santé physique, musculaire, qui peut-être réduit la propagation de cette maladie. J'aimerais qu'on aille sur un truc un petit peu plus peut-être joyeux. Tu disais qu'il y avait pas mal de rencontres, souvent dans les cafés, les restos, peut-être les campings. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué et lesquelles? Enfin, je sais
Alors,
pourquoi.
oui, non, mais oui. Bah, il y en a une. J'étais en Espagne. Je regardais la mer et il y avait un monsieur qui était pas loin et il y avait des hélicoptères, enfin un hélicoptère et deux bateaux qui regardaient dans l'eau, des voitures de police. Je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, le monsieur vient me voir, il me dit, ah, oh, on cherche y a un pêcheur qui est tombé dans l'eau et tout, donc le truc vachement dramatique. Il me dit ça. Alors moi, j'étais là, bon, bah, c'est pas terrible. Ah, ils l'ont pas retrouvé. Enfin voilà, on parle. Et le monsieur, on parle. Je lui explique mon projet et tout, et puis il sort un petit calepin et en fait, il sort un premier trèfle à quatre feuilles. Il me dit, bah tiens, je te le donne. Et
Non.
là, la symbolique, c'était énorme. Il en avait un deuxième, et là, il me donne le deuxième. Je lui dis, mais non, j'ai besoin que d'un. Enfin, si vous voulez, vous m'en donnez un, mais deux, c'est quand même beaucoup. Il dit, non, non, mais ça te servira, je pense. Et en fait, enfin, c'était extrême, parce que tu vois quelqu'un qui est dans cette situation, qui est dans l'eau, et enfin, tu le vois pas, mais
Bien sûr.
la personne, ils sont en train de la chercher. Et le monsieur, tu le connais depuis 2 secondes. Tu lui as parlé 2 minutes, il t'offre deux trèfles à quatre feuilles. C'était fou,
Ouais,
quoi. Dans
je
ces
te
conditions,
donne ce que je te donne ce
c'est...
que je peux te donner à l'instant T pour te souhaiter, enfin pour t'apporter un maximum de chance et de réussite. Oh, ça a dû toucher
Ouais,
un.
ça, c'était... Ah oui, ça m'a touché, hein, sincèrement.
Il y a d'autres
Puis...
rencontres comme ça qui t'ont justement dit, putain, waouh, t'es genre.
Bah, en fait, c'est tout ce qu'on m'a donné, quoi. C'est
C'est-à-dire.
incroyable, la générosité. En fait, les gens, ils voient que je fais 6 000 km,
Et t'as des
Bon, déjà,
exemples?
ils
Ils
me
t'ont
croient
donné
pas,
quoi?
mais...
Tiens, des baskets? Non, je vois.
Et en fait, non, ils me donnent à manger ou tu rentres dans un bistrot, les cafés qu'on m'a offerts, c'est incroyable.
Ah ouais.
Enfin, c'est souvent, souvent. Quand ils voient le projet, franchement, il y a énormément de générosité. C'est incroyable et ça touche à chaque fois. Je suis assez émotive, donc voilà,
Ah, il
si je dis une
chialait,
fois,
putain,
c'est...
il chialait, merci pour le café.
Voilà, je chialais pas devant eux, mais voilà, c'est hyper émouvant, surtout quand ça fait longtemps qu'on t'a, enfin, ou t'as passé une journée de merde, ou que ça fait longtemps qu'on t'a rien offert. J'attends pas du tout qu'on m'offre en plus
Ouais.
ce genre de choses, tu vois. Moi, je fais pas ce voyage pour qu'on m'offre des choses.
Ouais,
Je
bien
fais le
sûr, j'imagine.
voyage pour une cause, pour
Bel
mon
esprit.
plaisir, et voilà. Et ouais, pareil, c'était pas loin de Santiago. En fait, je passe devant une maison, il y avait une vieille mamie. Qui était avec une canne, elle a tapé sur un poirier, elle me dit, tu veux des poires, tu veux des poires? Et là, en fait, c'était, je fais, bah ouais, je veux bien. Et puis je voyais qu'elle avait du mal à marcher, je pense qu'elle avait envie de discuter, quoi. Donc je vais l'aider à ramasser les poires et tout. Et puis elle m'invite chez elle. Et puis elle m'offre une rose sans savoir que je m'appelle Violette, tu vois. Donc c'est des petits trucs. C'est hyper sympa, et puis je prends 3 poires parce que je dis, moi je vais pas en avoir besoin de. Et elle me dit, mais non, faut que t'en prennes. Elle me donne tout, elle me met tout dans les bras, et ça dure, voilà. Enfin, c'est improbable, et on se connaît pas. Et en plus, pour la petite histoire, c'est que je lui dis, bon, bah, est-ce qu'on peut prendre une photo? Donc je sors mon appareil, elle me
Et
dit,
là, elle
oui,
dit ouais, elle
bah.
sort son iPhone, elle prend un selfie. Et
Non,
bam!
non, non, mieux que ça. En fait, donc je
Ouais.
sors mon appareil et elle voit sa tête dans le téléphone et elle reste hallucinée, quoi. Elle avait jamais, je pense qu'elle avait jamais vu, enfin, elle avait jamais vu sa tête dans un téléphone. Et je lui montre et tout. Elle était Bella, Bella. Elle était hyper contente. Et c'est hyper énorme, quoi. Ça, je l'avais
Génial.
vécu en Asie, des gens qui n'ont jamais vu leur tête dans un téléphone ou voilà, qui sont hyper impressionnés d'être photographiés. Mais là. C'était juste énorme de voir qu'au Portugal, bah, ça existe. Enfin, c'était... Non, en Espagne, pardon. Mais voilà, enfin, c'est des petites anecdotes comme ça. À Banyuls, j'arrive à Banyuls, j'en ai... Là, j'arrive, ça y est, je vois Banyuls-sur-Mer, je suis en France. Et en fait,
4 000 km
j'arrive, il y a
dans les
des
pattes.
Français. Ouais, non, mais franchement, la côte, je te dis pas, c'était chaud. Hein. Et j'arrive en haut, il y a des cyclistes qui sont là, c'est trois Français... Non, quatre Français. Et en fait, ils me disent... Enfin, on discute, je discute du projet, ils me disent, oh bah attends, faut qu'on fête ça. Alors voilà, ils sortent l'apéro et tout, ils m'offrent l'apéro et tout. Voilà mon retour en France, quoi. Donc tu vois, enfin
Génial.
c'est génial.
Qu'est-ce qui...
Enfin.
Tu vois, c'est ah, une petite question que j'aime bien poser aux femmes, puisque n'étant pas une moi-même, je suis toujours mal placé pour donner des conseils ou des feedbacks. Enfin, peut-être dans une vie antérieure, on ne sait pas, attention, hein. Quand est-ce que tu as été, durant tous ces kilomètres, en danger ou tu t'es senti en danger parce que tu étais une femme, entre guillemets? Pas, parce qu'après, on peut tous être en danger, un homme, une femme, notamment, tu vois, avec une bagnole, n'importe qui pourrait être en danger. Est-ce que ta condition de femme t'as fait te sentir en danger à un moment ou à un autre?
Oh non, 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 dans ce projet, pas du tout, mais même dans les autres, je pense que l'avantage d'être une femme, c'est qu'on te protège souvent ou tu fais beaucoup plus de rencontres quand tu es une femme seule, je pense, qu'un homme seul.
Ouais, c'est
Donc,
sûr, il y en a beaucoup, ouais.
en fait, voilà. Après, je ne dis pas que j'irai faire l'Afrique seule, par exemple, ou, mais il y a des pays, je ne me prononcerai pas, mais pour ce que j'ai fait, sincèrement, non. J'ai
T'as
pas.
été
En
plutôt.
Amérique du Sud, j'ai eu un peu peur dans le sens où c'était plus vis-à-vis de mon appareil photo.
Oui.
Voilà. Mais c'est pas parce que j'étais une femme. Le
Ok.
fait d'être une femme, tu le sens. En fait, si la situation, surtout en fait, s'il y a un conseil à donner, tu le sens pas, t'y vas pas. Point barre. Je pense qu'on a une intuition en plus en tant que femme
Bien sûr.
qui est peut-être un peu plus développée que pour vous les hommes, parce que moi
Clairement.
j'ai des potes qui se sont fait agresser et c'était des hommes. Mais voilà, je pense qu'elle est développée et il faut pas hésiter à dire non quand on le sent pas et puis dire oui, voilà, quand c'est.
C'est un. J'aime bien repréciser parce que j'aime bien aussi demander à chaque fois que j'en ai l'occasion pour bien. Parce que si tu demandes à une personne à qui ça n'est rien arrivé ou une personne à qui il est arrivé quelque chose, malheureusement, c'est pas forcément parlant. Donc, mais ce qui revient très souvent, c'est ce que tu as dit. C'est en fait les femmes qui voyagent seules attirent beaucoup plus la sympathie, la générosité et le côté bienveillant en fait. Des personnes qui vont croiser parce que ce côté genre mais qu'est-ce que tu fais toute seule? Attends, viens chez nous, viens dormir, viens bouffer avec nous, où est-ce que je t'emmène? Et tout en gardant ce réflexe comme tu dis de je le sens pas, peu importe que ce soit une autre personne, une autre femme en face ou un autre homme, ou peu importe, si tu le sens pas, t'y vas pas. Et ça vaut pour les hommes, hein. Franchement, je pense que ça c'est très bien de l'appliquer tout le temps pour les femmes, mais les hommes c'est pareil, hein, on sait jamais, on n'est pas à l'abri de se faire braquer, de trucs comme ça, mais majoritairement, en tout cas ce qu'on retient c'est que voilà, ça se passe bien, fais pas. Si tu fais les choses bien de ton côté et que tu fais pas n'importe quoi, tu t'es pas à n'importe quelle heure ou n'importe quel endroit, ça se passe bien.
Ouais.
Violette, si on était dans un film, et tu sais, dans un film, souvent, au fur et à mesure d'une aventure, tu sais, les personnages principaux, ils acquièrent des compétences ou des super pouvoirs ou les trucs parce que, tu vois,
Ah
ils ont des entraînements. Tu sais, souvent, il y a des parties où ils font des entraînements et tout à coup, juste après l'entraînement, ils deviennent super balèzes. Qu'est-ce que
d'accord.
tes voyages t'ont apporté comme compétences, comme pouvoir, j'ai envie de dire, même celui-là, mais même ceux d'avant, tu sais,
Ouais,
par
ouais.
rapport à toi, la Violette de l'audit, ça a été quoi?
J'ai une capacité, je pense, d'adaptation à tout en fait. Donc,
Génial.
je pense que ça, c'est énorme. De pouvoir s'adapter à toute situation, de sourire, c'est bête à dire, hein, mais
Ah
le
non,
fait
mais.
de sourire, ça débloque énormément de choses. Si tu vois que la personne en face de toi, tu lui souris, elle sourit pas, bon, bah, tu zappes, mais en fait, ça apporte beaucoup de. En fait, beaucoup de choses positives de sourire et ouais, ma capacité d'adaptation, je pense que je peux faire tous les métiers. Enfin, je peux pas faire tous les métiers. Il y a des compétences que je n'ai pas, mais je peux m'adapter beaucoup plus vite. Et c'est aussi lié à ma maladie parce que quelque part, ma maladie, je m'adapte à ma maladie. Je
Ouais,
fais.
en
En fait, j'ai
fonction
fait
de la
des
journée.
milliers de tests pour essayer de me dire, ah, ça, est-ce que ça me fait du bien? Ça, est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que voilà, pour essayer d'améliorer. Essayer de trouver un équilibre. Et c'est ça, essayer de trouver un équilibre. Enfin voilà, adaptation, je pense, ouais.
Et je pense que c'est, on s'en rend pas compte, mais ça paraît tout bête, mais dans le monde dans lequel on vit, dans un monde qui est plein de changements, qui est incertain, on ne sait pas ce qui se passe trop en ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer prochainement. Dans un monde où on est encore très empreint de l'ère industrielle, de on t'a formé à quelque chose, on t'a formé à un métier, à une façon de vivre, à une ville, à un truc comme ça, et tu fais tout ça toute ta vie, pour nous formater, on a perdu, je pense, un pouvoir essentiel dont on est tous dotés. La preuve, c'est la capacité d'adaptation. C'est, enfin, tu vois, c'est aussi la loi de Darwin, c'est-à-dire c'est ceux qui résistent dans le temps, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui sont les plus résilients, qui s'adaptent le mieux à leur environnement. Et j'essaie vraiment de diffuser ça aussi dans mes contenus, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent, quand vous allez quelque part, adaptez-vous à la culture, adaptez-vous au temps, adaptez-vous physiquement à l'état d'esprit, mais même dans votre vie de tous les jours. Enfin, tu vois, si tu vois que ton secteur, il va se péter la gueule parce que ben il y a des développements technologiques. Oui, il faut pas se laisser faire par les patrons qui vont faire des plans sociaux et qui a un moment machin, mais à un moment, la personne qu'il faut défendre le plus, c'est toi, en fait. Donc, mise sur toi, essaie d'apprendre des nouvelles choses, essaie d'anticiper, essaie de toujours, en fait, ne prends rien pour acquis, parce que dans la vie, il n'y a rien pour acquis. La preuve, Violette, elle était là en audit, boum, allez, terminé, maladie de merde, maintenant tu fais avec. Ben, Aujourd'hui, on est tous contraints aujourd'hui de savoir s'adapter, notamment par le Covid, mais par des choses qui vont peut-être arriver prochainement. Mm-hmm. Hein, on ne sait pas, ils ont encore plein de trucs dans leur manche, je suis sûr. Et je pense que c'est un magnifique super pouvoir que tu as réussi à développer grâce à tous ces voyages. Et j'encourage tous les gens je pense que tous les gens qui voyagent ont très bien compris cette remarque. Et ceux qui voyagent peu ou pas encore assez, ou même qui le font dans la vie toujours, pensez à ça, quoi. C'est ce qui va nous sauver, c'est ce qui nous permet d'être bien, c'est ce qui nous permet de... Quand il pleut, que t'as pas de thunes, que t'es pas bien, si tu sais t'adapter, tu sais que tu vas t'en sortir. Parce que tu vas penser solution, tu vas penser positif, tu vas penser sourire, et tu vas attirer solution à toi. Et c'est vrai que ça a l'air facile à dire, mais à travers tous les invités qu'on a eu dans ce podcast, et Violette en est un magnifique exemple, on peut vraiment s'en sortir, on peut toujours trouver une solution. Je dis pas que ça va être facile, mais c'est simple, faut y aller en fait. C'est pas facile, faut y aller, faut sortir les doigts et se dépasser physiquement et mentalement. Et voilà. Petite tirade où je t'ai totalement accaparé la parole, j'en suis désolé, mais
pas de problème.
C'était important de le préciser, je trouvais. Deux petites questions par lesquelles j'aime bien terminer. Si je te file les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment de cette aventure, cette dernière aventure à pied, ça serait lequel? Pour pouvoir revivre cette émotion, ça serait quel moment?
Moi, je sais pas. Sincèrement, je pense que je suis obligée de dire une ou franchement, c'est la totalité pour moi. Enfin,
okay.
Parce que en fait, tous les jours, il se passe quelque chose. Je pense que si tu es hyper ouvert, il se passe tous les jours quelque chose. Alors, de dire une chose, c'est vrai que les trucs, l'aventure avec les deux trèfles à quatre feuilles ou cette petite mamie, ou j'ai pas de moment précis parce que. Ça fait 8 ans que je voyage, et dans cette aventure, ça a été un condensé énorme. Ça a 11 mois de marche, j'ai pas marché tous les jours, c'est énorme. Se résumer un jour et un moment.
C'est pas un résumé, justement. C'est là la question, c'est de se dire. C'est ça qui est beau, c'est que toi, en fait, tu t'as pas envie de revivre un seul moment, t'as envie de tout revivre. Toi, t'es pas gourmande, toi. Tiens, allez, tiens. Moi, je prends pas une petite part de gâteau que j'aime bien. Tu me files le gâteau, sinon j'en prends pas. Ok. La grosse négociatrice. Ouais. Très bien, y a aucun souci.
Bon, désolé pour le moment. C'était
pas. Je te filerai pas les clés de la DeLorean. Et puis, je peux pas te la prêter pendant un an. Je suis désolé.
Tant pis.
Si tu devais résumer cette dernière aventure en une citation, une phrase de ta création ou une punchline, ce serait laquelle?
Rien n'est impossible.
Et bim, terminé, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce petit moment et d'avoir surtout partagé la fibromyalgie, ce que ça implique, ce qu'on arrive à surmonter, de savoir que finalement il y a beaucoup de gens qui sont concernés mais que c'est compliqué aussi pour eux, de leur donner de l'espoir à travers ce magnifique témoignage. Donc vraiment, merci pour ton temps, merci pour ça. Déjà, moi je te souhaite aussi, les deux dernières semaines, de bien les terminer le jour où tu pourras le refaire, quand tu auras décidé de le refaire. Et internaute, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir avant de se quitter, c'est une petite dédicace en story, que tu sois en train de faire la vaisselle, surtout en ce moment, ou en train de garder tes enfants et qu'ils t'ont cassé les oreilles, donc tu as mis un podcast sur les oreilles en les gardant à la maison pendant le confinement. Voilà, tag nous, ça nous fera toujours plaisir, ça fera plaisir à Violette aussi dans son combat. Et parce que c'est au quotidien qu'elle le vit. Et puis si tu veux toutes les astuces de voyage, tu peux toujours les retrouver sur mon blog viseo.net, évidemment. Violette, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Ciao Violette, bye.
Bisous.
Ciao.